un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de « Quelle odyssée aujourd'hui ?». Pour faire suite à mon dernier épisode, nous restons dans la même lignée avec un voyage encore solo, mais cette fois-ci en train. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite vraiment après cet épisode à écouter l'épisode 33 sur la traversée de l'Atlantique à la rame d'Anne Kéméré, qui était un épisode vraiment incroyable. Mais passons maintenant à l'épisode du jour et nous allons retrouver Mathilde qui sera mon invitée aujourd'hui. Salut Mathilde, comment tu vas ?
Très bien, et toi Jérémy ?
Ben écoute, très bien, merci. Merci d'avoir accepté de passer sur Quelle Odyssée aujourd'hui. Je suis vraiment impatient de t'écouter et que tu racontes cette expérience.
Avec plaisir. Tu peux me présenter un peu si tu veux. Donc je m'appelle Mathilde.
c'est la question que tu as posée. C'est la première fois qu'on me le fait. Donc écoute, je suis désolée de t'avoir coupé. Effectivement, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
Je vais un peu vite. J'ai un peu un problème dans la présentation. Je sais jamais comment me présenter. Donc en fait, on va y aller dans 30 secondes. Donc, je m'appelle Mathilde. J'ai 22 ans et je suis encore étudiante. Et il y a un an, j'ai décidé de commencer à voyager seule. Donc j'ai fait pendant un mois une traversée de l'Europe en train.
Ok. Je disais là l'épisode juste avant qui était la traversée de l'Atlantique à la rame. Là on part sur une expérience donc toute seule, traverser l'Europe en train. On va bien sûr rentrer dans les détails de ce que tu as fait, mais aussi de comment tu as pu faire ça. 22 ans et tu as fait donc l'année dernière donc 21 ans, tu avais fait un mois toute seule à traverser l'Europe. Comment t'es venue cette idée déjà pour commencer ?
Alors, en fait, j'étais censée partir 6 mois au Vietnam à la base pour mon échange universitaire. Et vu que c'était il y a un an, on a eu tous connu un peu la même période du Covid. Et j'avais choisi le Vietnam justement parce que niveau Covid au Vietnam, c'était nickel. Et 2 mois avant de partir, la situation elle s'est un peu empirée au Vietnam. Et en fait, j'étais pas sûre de pouvoir partir. Et au lieu d'attendre en fait que l'école me donne des réponses ou que le visa, le visa prenait beaucoup plus de temps, je me suis dit ok, j'ai pas envie d'attendre à rien faire parce que moi je venais de finir mon stage, j'avais pris un job étudiant mais qui venait de se terminer. Donc en fait là on était en août dernier et j'attendais un peu à rien faire en Normandie. Je me disais ok, je suis censée partir en septembre en Asie, mais est-ce que je vais pouvoir partir ? Et je suis très impatiente et je déteste attendre à rien faire. Et donc, j'ai décidé au lieu de rien faire, de un peu prendre mon avenir en main et de me dire, ça faisait 4 ans que j'étudiais et j'avais pas eu encore l'occasion de partir à l'étranger. Hein. C'était un peu la période que j'attendais. Je me suis dit, ok, ça va peut-être me passer sous le nez cette période que j'attendais tant. Et du coup, j'ai décidé de partir un mois en train à travers l'Europe en me disant que j'étais pas très loin. Donc, si je voulais revenir, si je devais repartir au Vietnam juste après, je pouvais rentrer normalement et j'avais pas trop de problèmes sur ça. Et aussi, il y avait le deuxième facteur, c'est que à cette époque-là, donc j'avais 21 ans, j'avais beaucoup d'anxiété sociale. C'est-à-dire que pour moi-même, aller par exemple à la boulangerie, demander du pain ou juste d'aller vers les inconnus, c'était hyper compliqué pour moi et c'était vraiment un obstacle. Et en fait, à ce moment-là, je me challengeais quelques fois, donc aller vers les inconnus dans la rue, leur demander mon chemin ou des choses comme ça, même si j'en avais pas forcément besoin, mais juste me challengeais petit à petit. Et je me suis dit, ok, en fait, ça va pas assez vite pour moi, je suis tout le temps, ce truc de petit pas, mais ça reste quand même compliqué, par exemple, d'aller à la boulangerie, et je trouvais ça assez fou. Et je me suis dit, ok, en fait, tu vas partir seule, là, pendant un mois, dans des villes que tu connais pas, avec un anglais un peu bancal, et en fait, là, t'auras pas le choix. Tu seras obligé d'aller parler à des gens parce que je voyageais que en auberge de jeunesse, donc tu seras obligé d'aller parler à des gens, de demander, tu seras obligé d'être toute seule pour te débrouiller. Aussi, il y avait ce truc où, dès que, par exemple, à la boulangerie, je trouvais toujours quelqu'un pour y aller à ma place. Par exemple, pour faire les appels téléphoniques, le médecin, etc. J'appelais toujours ma mère. « Maman, est-ce que tu peux me prendre rendez-vous ?» Et j'en avais un peu marre. Et là, je me suis dit, en fait, je suis toute seule. Et il y a personne, il y aura personne pour m'aider. Je l'avais même dit à personne dans ma famille. Je l'avais juste dit à ma mère que je partais. Donc en fait, il y avait personne pour m'aider et j'étais toute seule. Et c'était un de mes grands défis au-delà de, tu vois, du tourisme, de voir des villes. Moi, c'était plus un challenge pour moi-même d'aller vers l'inconnu et d'aller aussi me retrouver moi, essayer de me connaître, savoir ce que moi j'aimais vraiment, faire quelque chose vraiment pour moi, quoi.
Super intéressant ce que tu dis. Je comprends très très bien ce que tu veux dire. Et effectivement, au-delà du voyage et de cette expérience, toi, tu avais quelque chose quand même intérieur. C'est la première fois que tu voyageais, tu dis, t'es déjà sorti de France comme un peu ou
C'était la première fois que je voyageais seule.
seul, ouais.
Après, ma famille n'est pas du tout une famille de grands voyageurs. On n'était pas beaucoup sortis de France non plus. On était juste allés, par exemple, faire des vacances un peu en famille, Maroc, Tunisie. Mais oui, j'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie. Donc il y avait ça aussi. J'avais aussi envie de voyager, voir autre chose.
Mais c'est ouais, mais je comprends. Et finalement, si on revient sur un peu ce point bloquant et le fait de casser un peu tes barrières limitantes, comment est venu ce déclic? Comment t'as fait? En fait, t'as pris ton billet de train et du coup t'es dit bon bah maintenant j'ai plus le choix ou comment ça s'est fait?
Ouais, c'est un peu ça. Ce qu'on me demande aussi, on me demande beaucoup le déclic et j'ai pas le souvenir d'avoir eu particulièrement un déclic. Je pense que c'était juste le déclic, c'est que j'en avais marre d'attendre de savoir si j'allais partir au Vietnam. Je me suis dit, ok, maintenant faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester à rien faire chez moi alors que j'ai fini mon stage, j'ai fini mon job étudiant. Donc faut que je fasse quelque chose. Et ça m'est venu un peu dans l'idée, ok, faut que je fasse un truc que j'ai jamais fait, que j'ai toujours eu envie de faire parce que là en fait j'ai l'opportunité, j'ai le temps. Avant, toujours, je me mettais un peu l'excuse de la barrière, les études, le temps, j'avais pas le temps pour le faire, je devais étudier, etc. Là, j'avais le temps, donc c'était un peu mon déclic aussi d'avoir le temps. Et oui, comme tu dis, donc je suis partie en train, je suis partie grâce à Interrail. Donc en fait, c'est un pass. Moi, j'ai pris un pass, donc 7 jours pendant un mois, où t'as 7 jours où tu peux voyager pendant un mois à 250 euros, donc vraiment pas cher. Et ouais, en
Attends,
fait, je...
7 jours, si je résume, donc pendant 7 jours, tu choisis tes destinations, tu choisis ton temps, tu choisis le nombre de pays, le nombre d'arrêts, comment ça se passe exactement quand tu vas sur Interrail?
En gros, tout d'abord, tu choisis le pass que tu veux. Donc, en fait, tu choisis le timing. Donc, moi, c'était un mois. Donc, pendant un mois, j'avais un pass. Et les 7 jours, c'était pendant 7 jours, je pouvais prendre le train. Donc, de minuit à minuit, je pouvais prendre autant de trains que je voulais. Et j'avais pas à choisir avant mes destinations. En fait, si je voulais prendre 7 jours d'affilée des trains, je pouvais le faire. Mais moi, ce que je faisais 3, 4 jours dans chaque ville et après, je reprenais un train. Et tout ça pendant un mois. Donc en fait, tu choisis
D'accord.
les jours, tu peux choisir le lendemain, en fait, de repartir le lendemain, si tu veux. T'as pas à choisir en avance les jours de voyage, ni tes destinations. Ce que je faisais, moi, j'activais mon jour pile quand j'étais dans le train, comme ça, j'avais pas de souci de perdre un jour.
Ok, on était petit tips en parallèle, tiens, du coup.
Ouais.
Mais pour revenir sur ce pass Interrail, moi je trouve déjà que bon, j'en avais déjà entendu parler, mais je trouve qu'à mon goût, on l'est pas assez mis en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les différents médias. Donc c'est bien qu'on puisse en parler et c'est bien que là je puisse en parler aussi à travers cet épisode avec toi. Il faut savoir que ce pass Interrail, donc il te donne accès à toutes les compagnies, alors peut-être pas toutes, mais j'ai vu que je crois que c'était une quarantaine de compagnies ferroviaires, donc en Europe, mais aussi des ferries. J'ai vu qu'il y avait des ferries. Si tu avais besoin de faire des traversées. Et donc, ça concerne 33 pays. Voilà. Et comme tu disais, tu peux choisir ton temps, donc un mois, 2 mois, 6 mois de voyage, et tu choisis en fonction de ça, le nombre de jours que tu souhaites voyager, prendre le train, du coup. Et c'est comme ça. Donc là,
Exactement.
pour un mois, voilà, grosso modo, pour un mois, 7 jours de train sur un mois, tu as payé 250 euros.
C'est ça. Après, il y a quelques... En fait, t'as ce pass et il y a quelques fois où faut faire des réservations en plus, par exemple pour les trains de nuit ou pour les ferries, comme tu disais. Il y a des fois où faut rajouter un supplément en plus ou quand c'est des trains de très très longue distance. Faut réserver son siège avant ou faut rajouter peut-être genre 10 euros, quelque chose comme ça, en plus. Mais oui, pour la plupart, en fait, les trains interrégions ou dans les pays, c'est compris dans le pass. Donc c'est 250 euros pour voyager dans 6 villes, je trouve ça incroyable. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas hyper connu. Alors que par exemple, en Allemagne, il y a beaucoup de jeunes dès la sortie à 18 ans qui partent faire ça dès la sortie fin, du bac qui partent faire ça, alors que nous c'est pas hyper connu, alors que pourtant enfin financièrement c'est un peu l'opportunité de rêve, parce que 250 €, c'est assez incroyable pour voyager autant, et surtout en train, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'en avion, que le train qui est beaucoup plus cher maintenant que l'avion. Donc c'est un peu pour moi c'est pour ça que j'aime bien en parler, j'essaie d'en parler dans mon entourage, pour les jeunes, etc., parce que c'est vraiment intéressant, c'est une expérience assez dingue.
Très bien. On va continuer à en parler là tout au long de cet épisode-là. Peut-être en parallèle, on va avancer sur toi, ton périple à toi. Tu es parti d'où et quelle a été ta première destination?
Alors j'ai commencé par Amsterdam parce que, enfin pour moi, j'avais pas prévu vraiment d'itinéraire avant que je parte, parce que comme je l'ai pas dit au début, mais tu vois, tu parlais du déclic. Moi, j'ai acheté mon pass et je suis partie 4 jours après l'avoir acheté. Enfin, j'ai décidé de l'acheter le jour même où j'ai eu la connaissance de ça. J'ai fait OK, je le prends, et 4 jours après, j'étais partie. Et donc, j'avais juste décidé de commencer par Amsterdam en premier parce que c'était pas très loin. Donc, au niveau train, je pense, que c'était 3 heures de train, quelque chose comme ça.
Ouais, de Paris.
Ouais. Et ça reste assez francophone comme ville. Enfin, il y a énormément de Français là-bas, donc c'était pas hyper dépaysant comme première destination. Donc c'était un peu rassurant pour moi de savoir que j'allais pas au bout du monde dès le premier jour. Et en fait, je me laissais aussi la possibilité de moi, je me suis toujours dit, si ça me plaît pas, je me laisse la possibilité de rentrer en fait. Si je me sens pas bien, si je trouve pas ça cool pour moi, parce que l'objectif, tu vois, c'était aussi de moi vivre une bonne expérience. Mais je m'étais pas forcée à me dire, en fait, tu vas organiser tout ça et tu vas le faire, même si ça te plaît pas. Je me suis dit, OK, je teste. Si ça me plaît pas, c'est pas hyper grave. J'aurais perdu de l'argent. C'est un peu embêtant, mais voilà, j'aurais testé. Et au final, ça m'a tellement plu que j'ai continué pendant 5 villes ensuite, quoi.
D'accord. Ah oui, donc tu as fait combien? 5, 6 pays, c'est ça en tout?
Ouais. Alors, les villes que j'ai fait, j'ai commencé par Amsterdam. Ensuite, je suis allée à Berlin. J'ai fait Vienne, Budapest, Zagreb et j'ai fini par Venise. Et j'ai fait un petit arrêt à Milan aussi.
D'accord. Et ensuite, de Milan, tu es retournée sur Paris.
C'est ça, ouais, sur Paris.
D'accord.
J'ai pris un train Milan-Paris.
Et la petite question, c'était, une fois que tu as ton pass et que tu as réservé tes jours, est-ce que du coup tu peux monter dans n'importe quel train comme tu veux, ou non, il faut quand même, enfin ok, tu as ton pass, tu sais que cette journée-là c'est open bar, par contre il faut quand même que tu réserves ta place dans ton train pour éviter, je sais pas, cette journée-là c'est des départs en vacances et que le train est complet, est-ce que tu peux rentrer quand même, quoi?
Alors, ça dépend du coup. Par exemple, pour le Paris-Amsterdam, fallait que je réserve et que je mette un supplément. Je crois que c'était 20 €, donc c'était le plus cher que j'ai payé en supplément, parce qu'en fait, c'est un train qui est hyper... déjà, qui est cher de base, et en fait, qui est complet à chaque fois. Donc en fait, pour les trains de hyper longue distance qui vont de pays à pays, là, des fois, il y avait des suppléments et donc des places à réserver. Ça m'arrivait par moment de devoir réserver ma place. Mais la plupart du temps, non, en fait, et je choisissais même pas le jour pour éviter de gâcher un jour et ne pas louper le train. J'allais directement avant dans le train, et une fois dans le train, je réservais ma journée de train, en fait, pour être sûr de pas avoir de problème, de pas gâcher une journée, etc.
Oui, c'est ce que tu disais.
Ouais, c'était hyper, c'est pour ça que c'est hyper cool, l'intérêt aussi, c'est que ça te donne un peu full improvisation, en fait, t'as pas besoin de choisir tes jours à l'avance si tu te sens pas très bien dans une ville, si t'as envie de rester plus longtemps dans une autre ville. En fait, tu peux, t'as pas besoin de cocher tes cases avant. Si le lendemain tu veux partir, bah, tu peux partir. Si t'as un train, t'y vas, quoi. Moi, j'allais à la gare, je vérifiais quel train, je regardais les heures de train. Et une fois dans le train, ensuite, je cochais un peu ma journée en me disant j'ai pris ce train-là et du coup, je pouvais prendre le train toute la journée.
Ok, génial. Non, c'est bien. En fait, ils ont vraiment facilité pour que tu puisses voyager sans contrainte, et que s'il y a un imprévu, que tu puisses quand même repartir, enfin, tu puisses bouger sans problème, quoi, sans être bloqué. D'accord. Bon, et Amsterdam, alors, comment c'était?
Au début, c'était un peu bizarre parce que j'arrive dans la ville et du coup, c'est la première fois que je suis seule. Et j'avais un peu cette sensation que tout le monde me regardait, en fait. Enfin, j'étais moi avec mon sac à dos énorme. Je me dis, OK, je crois que j'ai l'impression que tout le monde me regarde, parce qu'en fait, je sais pas, Amsterdam, c'est pas forcément la ville où tu vas seule, a priori. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont avec leurs amis, etc. Donc au début, je me suis sentie un peu bizarre, mais c'était pas négatif, c'était juste ok. Donc là, t'es en train de le faire, c'est cool, il se passe quelque chose. Donc je suis allée dans mon auberge de Genève, je me suis reposée un peu. Et là, c'était le moment aussi des premiers repas seuls. Donc manger toute seule dans la ville, c'était un truc que j'avais jamais fait en France, ou très peu dans des fast-food ou des choses comme ça, mais jamais vraiment en restaurant, commander en étant seule. Et c'était assez cool, c'était un peu... ça faisait du bien un peu de se retrouver, se ressourcer, etc. Et ensuite, vu que je suis en auberge de jeunesse, c'est assez facile. Et comme je te disais avant, il y a beaucoup de Français. Donc c'est assez facile de nouer des liens là-bas. Dans l'auberge de jeunesse, j'ai rencontré des Français un peu partout. J'ai pas rencontré d'autres étrangers. J'ai beaucoup, pour ma première destination, je suis beaucoup restée entre Français. Mais tous les soirs, j'étais avec d'autres personnes, enfin des nouvelles personnes. Je suis restée que 3 jours à Amsterdam. Mais du coup, c'était cool. C'était un peu, je pense que c'était une bonne destination pour commencer pour moi, pour un peu se mettre en jambes, me dire ok, je suis en train de faire ça, c'est cool. Les Français qui me donnent des conseils, parce que vraiment, moi, je suis partie en n'y connaissant rien. J'ai oublié plein de trucs dans mon sac à dos. J'avais pas vraiment, je suis pas une pro de l'organisation. Moi, j'aime bien improviser et voir ensuite. Donc en fait, on me donnait des conseils sur le moment, sur quelle ville faire ensuite, parce que j'avais pas du tout d'itinéraire. Je savais pas du tout où je voulais aller après. Du coup, je me suis retrouvée à Berlin ensuite, qui était pas très loin non plus en train. C'était assez logique, mon parcours. J'ai essayé d'optimiser, de pas me taper des 10 heures de train par jour ou de pas devoir faire des allers-retours. J'ai fait un petit tour, un beau petit rond dans l'Europe. Mais ouais, Amsterdam, c'était vraiment cool.
D'accord, oui, mais moi je comprends cette première destination plutôt safe entre guillemets, où tu sais que t'es proche de la France, que bah voilà, que tu t'es rapproché de certains Français justement pour voilà avoir des petits tips, des conseils, et que bah je suppose que plus tu vas aller c'était resté quand même dans les grandes villes, donc t'as dû croiser un peu tout le temps des Français, mais l'objectif après c'était une fois que t'es un peu plus à l'aise, commencer à rencontrer d'autres personnes de différents pays finalement.
Ah oui, totalement. Juste après, après Amsterdam, je me suis dit ok, c'était cool, mais j'ai vu beaucoup de Français, c'était pas mon objectif. Moi, si je voulais voir des Français, je reste en France. Et voilà. Donc après, j'ai essayé un peu d'éviter ou de pas aller vers la facilité. Quand j'entendais parler français, j'essayais pas forcément d'y aller, histoire de plus déjà essayer de parler anglais, enfin d'aller plus vers la difficulté pour moi, essayer de pas aller vers la facilité justement. Mais oui, vu que j'ai fait beaucoup de grandes villes, il y avait beaucoup de Français quand même. J'arrivais toujours à retrouver des Français si j'avais besoin de retrouver des Français, mais vu que c'était pas mon objectif, je crois que c'est la seule ville où je suis vraiment restée avec des Français. Et ensuite, après, j'ai pas du tout passé des soirées que avec des Français. J'ai vraiment essayé de rencontrer des voyageurs aussi d'autres pays, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Voyager seul. 22 ans pour une fille, ton ressenti là pour ce premier voyage, comment c'était ?
Honnêtement, je me suis jamais sentie en insécurité, mais vraiment jamais. Et je sais pas, il y a l'âge aussi, du coup j'avais 21 ans à l'époque, mais en auberge de jeunesse, je me sentais un peu souvent la plus jeune, j'étais souvent la plus jeune quand même. Et souvent, dans les auberges de jeunesse, c'est vrai qu'il y avait quand même moins de femmes et moins de personnes plus jeunes. Quoique, après, les Allemands, par exemple, les Allemands voyagent, comme je t'ai dit au début, les Allemands voyagent très jeunes. À 18 ans, t'avais plein d'Allemands qui font ça juste après leur bac, et ça, c'était super cool. Donc, voilà. Mais par exemple, pour les autres nationalités, je me sentais, oui, un peu la plus jeune, mais c'était cool. Et sinon, en tant que femme ou en tant que... Je t'avoue que ouais, je me suis jamais vraiment sentie en insécurité, ou après je prenais pas de risques en soi pour pas me sentir un peu en insécurité. Mais ça m'empêchait pas, par exemple, d'aller en soirée, de rentrer seule la nuit, ou je restais assez dans des grandes villes, je prenais pas de gros risques. Mais non, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe, tu vois. Après, je reste en Europe, donc c'est quand même... Ça change pas énormément de la France. Mais tu vois, comme j'ai vécu un an à Paris, je me suis sentie 100 fois plus en insécurité à Paris qu'en étant seule en Europe, quoi. J'ai eu aucun problème, aucun...
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on en parle souvent. Après, on met souvent en avant les pays d'Amérique latine ou choses comme ça, où on on peut sûrement pas, et c'est catégorique, hein, mais on peut pas comparer. C'est vrai que dans les grandes villes, enfin, que j'ai fait aussi, Budapest, Berlin, Zagreb, etc. C'est vrai que t'as une sorte d'osmose dans ces villes, donc c'est quand même les capitales, c'est quand même, enfin bon, c'est vrai que t'as cité le contre-exemple de Paris. Il y a certains quartiers, c'est comme tout, où on peut pas aller. Mais je suppose que sur la partie touristique, entre guillemets, voilà, je dis pas que le risque zéro, enfin, il existe toujours, tu vois, mais que tu as pu, tu peux te dire que je peux voyager sans difficulté et sans forcément avoir la boule au ventre à chaque fois que tu vas sortir quelque part, quoi.
Exactement. Ce que je dis, le risque zéro n'existe pas en France non plus. Donc, si je prends le risque en France, je prends le risque ailleurs. Enfin, je me suis pas du tout senti. C'est pour ça que j'essaye de rassurer un peu les jeunes femmes qui aussi me posent des questions sur ça. Est-ce que en tant que femme, etc. Non, franchement, pas plus qu'ailleurs en fait.
Pas plus qu'ailleurs, exactement. C'est très bien. Ok. Alors. On a parlé d'Amsterdam, Berlin. Tu as fait ton prochain arrêt à Budapest?
À Vienne. J'étais en troisième
à
à
Vienne,
Vienne.
Pardon.
Ouais. Ouais, où j'ai adoré la ville. C'est la ville où je suis restée le plus longtemps. Enfin, je suis restée 6 jours, mais 6 jours dans un mois. Quand tu fais 6 villes, c'est beaucoup. Même si 6 jours, ça paraît pas énorme. J'adorais, en fait, l'ambiance dans l'auberge de jeunesse, de même la ville, j'ai vraiment adoré la ville. Ça ressemblait aussi un peu en termes d'architecture à Paris, et très aéré. Et puis c'était, moi j'y suis allée en fin août, début septembre. Il y avait un peu moins de touristes, c'était un peu moins l'affluence des touristes, et du coup c'était un peu, tu voyais les locaux vivre un peu leur vraie vie, quoi, et le travail, etc. Et les parcs, et du coup étaient assez un peu déserts, etc. C'était vraiment cool.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as préféré à Vienne finalement? Du coup, l'architecture, les personnes que tu as rencontrées, est-ce que tu as un petit truc?
Je pense, c'était un peu un tout. J'ai l'impression que Vienne, pour moi, c'était un peu le sens, c'était le milieu de mon voyage aussi. Où après, en fait, je pense que Amsterdam et Berlin, c'était un peu mes deux villes où je me suis mise en confiance. Où en fait, j'apprenais à me connaître, à ce que je voulais faire, etc. Et en fait, j'ai passé ces deux premières villes, cette première semaine, à visiter en fait, du matin jusqu'au soir, etc. J'étais à fond et je suis arrivée à Vienne un peu plus fatiguée déjà. Et je me suis dit, ok, cool, tu vas prendre le temps plus aussi d'apprendre à connaître, enfin, de rencontrer des personnes dans mon auberge de jeunesse, de voir d'autres choses, pas forcément avoir un planning énorme du matin jusqu'au soir. À en être fatiguée le soir, je sortais plus le soir à Vienne. C'était un peu un tout, Vienne pour moi, c'était, oui, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes que j'ai revues, par exemple à Paris, ou même dans d'autres villes. Et, beaucoup de personnes avec qui je prévois de revoyager dans le futur, donc ça c'est top. Mais ouais, Vienne, c'était un peu, ce que je garde en tête, il y a eu plein de choses, plein de rencontres, l'architecture aussi. Enfin, c'était un peu. J'ai l'impression que tout allait bien dans cette ville et c'était un peu mon cocon. Donc, si j'avais à retourner dans une ville, là, par exemple en Europe, je pense que j'irais à Vienne parce que je me sentais un peu comme chez moi, même si je suis restée que 6 jours, je me sentais comme chez moi à Vienne.
Ok. Bon, bah alors petite une belle étape ton milieu de parcours du coup à Vienne.
Mm-mm.
Et ensuite, donc à chaque fois que tu reprenais le train, est-ce que c'était des nouvelles compagnies? Est-ce que il y avait des trains spécifiques? Enfin, quel était le train le plus chelou entre guillemets que tu as eu? Ou c'était que des trains qu'on a l'habitude de voir comme en France?
Je crois que j'ai eu aucun train chelou parce que c'était quand même souvent des longues distances.
Ouais.
Donc c'était pas vraiment des trains chelous. J'ai pas vu forcément de différence, tu vois, avec les trains français. À part que j'ai pas eu beaucoup de retard sur mes trains, si je peux mettre un petit tacle. Mais le seul retard que j'ai eu, c'est quand je suis rentrée en France. Mais sinon, non, les trains, j'ai pas eu de mauvaises expériences ou de très bonnes expériences. C'était vraiment les trains de la même façon qu'en France. Du coup, après, oui, je suis allée à Budapest. Et à Budapest, j'y suis allée parce que, comme je disais au début, moi, j'avais aucun itinéraire. Donc, un peu, je suivais ce que les personnes me disaient. Et à Vienne, je me suis tellement bien entendue avec les personnes là-bas dans mon auberge que beaucoup de personnes me disaient d'aller à Budapest. Je connaissais à mon grand malheur, je ne connaissais pas cette ville. Et en fait, j'y suis allée, je suis restée à Vienne un peu plus longtemps et j'ai rejoint des personnes avec qui j'étais à Vienne, en fait, à Budapest. Donc, ça a été un peu le Vienne bis à Budapest, mais c'était trop cool. Et je parle beaucoup de voyager seule. Mais en fait, pendant mes un mois, je me suis pas sentie souvent seule, même très rarement. Et à Budapest, c'est là aussi le point où il y a des journées où je disais justement aux amis que je rencontrais dans les auberges, ok, cette journée, j'ai envie d'être un peu seule, de faire aussi un peu ma journée seule, parce qu'à force d'être souvent avec des personnes qui aussi voyagent seules, forcément les journées on va visiter ensemble, les soirées on va les passer ensemble. J'avais eu un peu aussi à Budapest ce trop plein de personnes. Je m'étais dit ok, je pars aussi pour me retrouver moi, pour me retrouver seule, pour faire des choses par moi-même. Et c'est à Budapest la première fois où je crois que j'ai dit un peu à mes amis que j'avais rencontrés, ok, je pense que là cette journée j'ai envie de la passer seule, j'ai envie de visiter seule, j'ai envie de par exemple d'être dans mon lit le soir là seule, lire un bouquin. Et c'était un peu aussi une étape où j'ai pris conscience de mes besoins, d'avoir aussi le besoin d'être seule pour me ressourcer, de pas forcément toujours être entourée d'autres personnes, enfin que ça me prenait énormément d'énergie. Donc c'était aussi un peu une étape où j'ai appris que j'avais besoin d'être seule pour me ressourcer, et j'ai essayé de m'écouter, d'écouter mon corps sans me dire ok je vais louper un truc parce que je suis pas avec les autres. Non, ok, là faut que je me respecte un peu, faut que je respecte mes besoins, et voilà.
Très bien. Et je suppose que tes amis que t'as rencontrés là-bas, ils ont parfaitement compris aussi cet état d'esprit.
Ah mais totalement, totalement. Tout voilà. Le monde est. Ce qui est cool aussi en auberge jeunesse, c'est que tout le monde. On peut devenir amis en une heure, on peut passer une soirée ensemble alors qu'on ça fait cinq minutes qu'on vient de se rencontrer. Et ça, ce que j'ai adoré en auberge jeunesse, c'est un peu cette facilité d'avoir du contact, de te faire des amis en deux secondes. Et j'ai plein d'amis là encore aujourd'hui, enfin à qui je parle, parce que juste je leur ai parlé peut-être 5-10 minutes, on s'est échangé un contact, peut-être sur le quai d'une gare, on s'est échangé le contact et maintenant on parle, on prévoit des voyages ensemble. Et ça, je trouve ça trop cool.
Génial, mais en plus Budapest c'est vraiment une magnifique ville. Ouais. Moi aussi j'avais vraiment adoré. Zagreb c'est aussi très belle capitale, même si en Croatie il y a plein de très très belles villes.
Très belle ville.
Renvoyer à l'épisode 16 avec Manon qui en avait fait un magnifique épisode sur la Croatie. Moi je voulais revenir un peu sur, avant d'attaquer ta dernière destination qui était Venise, tu dis que tu as toujours été en auberge de jeunesse. C'était facile de réserver un auberge de jeunesse, de pouvoir trouver de la place dans les dortoirs, etc. À l'avance, ou comment t'as planifié tout ça?
Par exemple, moi, je ne planifiais jamais mes nuits. Avant, je planifiais jamais. Avant, parce qu'en fait, j'étais pas sûre. Par exemple, imaginons que mon train a du retard ou que j'arrive pas à avoir ma correspondance, etc. Je voulais pas perdre une nuit, en fait. Où j'avais payé sans y arriver. Donc en fait, je réservais mon auberge qu'une fois que j'étais dans la ville, qu'une fois que j'étais bien arrivée. Comme ça, j'étais sûre de pas louper une nuit. Et non, c'était super facile. Après, comme je disais, peut-être que moi, je suis partie donc fin août, début septembre, donc il y avait moins de personnes. Mais à chaque fois, j'ai jamais galéré. J'avais une application super pour ça qui répertoriait toutes les auberges de jeunesse. Donc en fait,
j'ai choisi cette application.
Ça s'appelle Hostel World.
Ah oui. Okay.
Et c'est une application incroyable. En fait, t'as juste à choisir. Tu vois un peu aussi l'ambiance de l'auberge de jeunesse dans laquelle tu veux aller. Si tu veux faire plus des soirées, plus être calme. Des fois, je décidais de ce que j'avais envie selon l'auberge de jeunesse. En fait, ça permet d'un peu prévoir. Et à chaque fois, je réservais que une ou deux nuits pour être sûre de quand j'arrive dans l'auberge jeunesse, si ça me plaît pas, si je me sens pas hyper bien, si je veux voir autre chose, en fait je peux choisir une autre auberge de jeunesse. J'ai pas besoin de me dire ok, je suis obligée de rester là pendant tant de jours alors que j'ai pas forcément envie. Donc ça c'était super facile. Après là, vu que je repars bientôt, je commence un peu à regarder les auberges de jeunesse et je sens que c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être parce qu'on est en plein mois d'août, il y a plus de réservations. Donc je pense que c'est peut-être faut quelquefois regarder un peu par avance, ou peut-être ça va coûter un peu plus cher si on réserve au dernier moment. Mais je pense que c'est la meilleure solution de pas trop prévoir, parce que l'application est géniale, on peut réserver en dernière minute et au moins ça permet de bien suivre ses envies. Si t'as envie de changer de demain, partir dans une autre ville, en fait tu peux quoi.
C'est clair, d'accord, effectivement. Et du coup, tu arrives à Venise, ta dernière ville, ton dernier pays. Facile de trouver une auberge de jeunesse aussi là-bas?
Un peu plus cher déjà,
Ouais.
Italie forcément. Moi, je logeais dans une auberge jeunesse à Venise. C'était plus la banlieue de Venise, s'appelle Venise Mestre, Maestré.
Ouais, ça connaît.
C'est un peu à l'écart donc de Venise. Je devais prendre un train pour aller dans Venise Centre, parce qu'en fait, dans Venise même, c'était quand même beaucoup plus cher. Il y avait déjà pas beaucoup d'auberges jeunesse et beaucoup d'hôtels. Donc j'ai pris une auberge, oui, un peu à l'extérieur, donc ça c'était plus facile. Après c'était pas la meilleure auberge parce que en fait c'est tellement pas cher qu'il y a des personnes qui y vivent à l'année. C'est pour ça mes conseils pour choisir une auberge de jeunesse, c'est pas de prendre la moins chère parce qu'en fait il y a des personnes qui y vivent à l'année et du coup c'est pas vraiment l'expérience auberge de jeunesse où tu veux rencontrer des voyageurs et de pas prendre aussi forcément les plus grosses auberges parce que du coup c'est beaucoup plus difficile de créer du lien en fait quand ça marche plus comme un hôtel. Alors que quand c'est des plus petites auberges, on se reconnaît plus facilement, c'est beaucoup plus facile de créer du lien que quand c'est des auberges, que quand c'est des énormes auberges de jeunesse. Donc là, pour le coup, à Venise, j'ai plus, là, j'étais complètement, avec moi-même parce que beaucoup moins de voyageurs seuls à Venise, comme on peut s'en douter quand même. Mais du coup, c'était cool. Pour le coup, j'ai pas fait beaucoup de rencontres à Venise. Mais c'était une bonne dernière destination pour me dire, OK, j'ai fait le point sur tout ce que j'ai fait, je trouve ça incroyable, je suis fière de moi. Là, ça me laisse un peu aussi du temps pour décompresser, pour vraiment apprécier l'architecture, les visites, etc. Donc c'était une bonne dernière destination, Venise, mais pas la meilleure si tu veux faire des rencontres en étant seule, forcément.
Oui, non, mais j'imagine. Mais justement, sur ce mois de voyage, qu'est-ce que ça t'a apporté humainement?
Énormément de choses. Par la suite, d'ailleurs, après mon mois d'Interrail, je suis partie 5 mois encore voyager seule. Donc, c'est que j'avais vraiment, vraiment apprécié cette expérience.
Toujours en
Mais
Europe?
je suis allée en Grèce. J'ai passé 3 mois en Grèce. Après, je suis allée en Turquie, donc semi hors Europe, et en Espagne. Donc, oui, toujours dans la partie Europe. Je suis pas allée très loin parce que c'était mon envie, d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté pour moi? Je pense que ça m'a un peu révélé la personne que j'étais. Comme je disais au début, j'avais énormément d'anxiété sociale et c'était hyper compliqué pour moi d'aller voir d'autres personnes, de parler avec des gens que je connaissais pas. Alors que maintenant, juste, j'adore cette expérience de juste découvrir de nouvelles personnes, de parler à plein de nouvelles personnes, etc. Donc niveau socialement, je suis beaucoup plus développée à ce niveau-là et j'aime beaucoup plus l'interaction avec les autres, même si je respecte le fait que j'ai besoin parfois d'être seule, etc. Donc j'ai beaucoup plus compris quels étaient mes besoins, comment mieux gérer mes traits de caractère, en fait, le fait d'avoir besoin d'être seule, mais aussi d'apprendre des autres. Et je pense que c'est ce que je retiens le plus, c'est au-delà de, tu vois, du voyage, de voir de nouvelles architectures, de nouvelles villes, etc. Moi, c'était beaucoup plus les liens que j'ai créés avec les personnes, le fait de, même s'il y a des personnes en fait avec qui j'ai parlé pendant peut-être une journée que je parle plus maintenant, à qui je parle plus maintenant, bah c'est ok en fait. Ces personnes-là, elles m'ont apporté, j'ai pu leur apporter. Il n'y a pas besoin, tu vois, de rester en contact pendant des années pour qu'en fait la personne elle puisse t'apporter. Et c'est ce que je retiens le plus.
Parfait, parfait. Donc oui, donc finalement ce premier déclic t'a permis de repartir 5 mois. Et est-ce que là, j'ai entendu tout à l'heure, tu allais repartir bientôt. C'est quoi? Quels sont tes futurs projets de voyage?
Alors là, je t'avoue que je pense partir la semaine prochaine, donc la semaine prochaine c'est demain, refaire un Interrail. J'ai 2 mois là devant moi et je savais pas trop quoi faire. Je me disais, j'ai bien envie peut-être d'aller à un endroit, habiter, etc. pendant peut-être 2 mois. Et en fait, j'ai pris trop de temps à me décider de la destination. Je me suis dit, en fait, je pense, j'ai refait comme l'an dernier. Là, j'ai pris mon pass Interrail hier. Je l'ai acheté. Je sais pas du tout encore où je vais aller, mais je l'ai acheté hier. Donc, en fait, cette semaine, je vais bien être obligée de partir. Et là, je pense, j'ai repris exactement le même pass que l'an dernier. Donc, 7 jours pendant 1 mois. Donc là, je vais faire 1 mois. Je pense passer plutôt par, descendre un peu. commencer peut-être par Budapest parce que c'était tellement une ville incroyable, mais après descendre peut-être par Bucarest, Belgrade, Sofia, des villes comme ça. Mais ça se trouve pas du tout, ça se trouve je serai à Budapest, je vais rencontrer des personnes qui me diront d'aller totalement autre part et je le ferai. Donc ouais, ça va être mon prochain défi de refaire justement cet Interrail.
Parce que est-ce que tu peux aller jusqu'à Finlande, Suède, tout ça?
Ouais.
Au Danemark, ouais.
Ouais. J'ai une amie qui l'avait fait. Moi, je me dirige un peu plus vers le sud parce que si ces pays-là, c'est un peu plus cher niveau logement, niveau vie.
Oui.
Et moi,
vu
que je voyage un peu en mode low cost, je suis encore une étudiante, donc je choisis aussi mes pays en fonction des auberges jeunesses, du prix, etc. Pour essayer de gérer mon budget et voyager le plus possible.
C'est
Mais
clair.
Mais oui, j'ai une amie qui l'a fait et ça s'est très bien passé d'ailleurs.
Super. J'ai une dernière question pour toi, Mathilde, que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient vivre la même expérience que toi?
Le conseil que je donne en général, et ça vaut pour toutes les prises de décision, c'est moi je me pose toujours cette question, qu'est-ce que ferait la personne que j'aspire à être en fait? Quelle décision prendrait la personne que j'aspire à être? Est-ce que cette question-là que je m'étais posée il y a un an, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire l'Interrail, mais j'ai encore peur, je sais pas trop, je manque d'argent, enfin, il y avait plein d'excuses en fait que je me donnais. Je me dis, ok, la personne, par exemple, que j'aspire à être dans 10 ans, est-ce qu'elle aurait pris cette décision? Et si c'est oui, bah go. Et comme ce que j'ai fait l'an dernier, ce que j'ai fait cette année, j'ai juste réservé mon pass sans me poser de questions de où je vais aller. Et après, en fait, on met tellement de temps et d'énergie à essayer de se convaincre, d'oser, de le faire, qu'en fait, on passe beaucoup moins de temps, enfin d'énergie à organiser la chose, etc. Donc je me dis, moi, j'enlève ce temps et cette énergie à essayer de me convaincre d'y aller. J'ai acheté mon pass et je me dis, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais on le fait, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, c'est oui, prendre les décisions sans essayer de penser à toutes ces peurs, etc. Une fois que tu as pris ta décision, bah tu seras obligé de le faire, donc tu vas faire en sorte avec tes peurs, etc. Et ça va être un bon challenge, quoi. Donc toujours garder un peu en tête cette question, qu'est-ce que ferait la personne que j'aspire à être?
Bah écoute, parfait, très très bien. Merci pour tout, Mathilde. Merci d'avoir pris du temps pour nous raconter cette expérience et puis d'avoir mis un peu en avant l'Interrail que je répète, hein, qui ouais, j'espère pouvoir convaincre d'autres personnes grâce à toi de l'utiliser pour voyager en tout cas partout en Europe, sur des longs voyages, faire plein de pays et tout ça en limitant son empreinte aussi, qui est aujourd'hui un enjeu quand même très très important, très fort. Voilà. Mathilde, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation, de bonnes vacances avec ce nouveau tour d'Europe.
Je te remercie de m'avoir invité. C'était super cool.
avec plaisir. Et puis, écoute, je te dis à très très bientôt pour la suite alors.
Salut.
Vous avez écouté cet épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à jeremy@odyssee-podcast.fr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.